France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le grand débat sans jamais oser le demander, c'est le moment ou jamais. Nous sommes ce soir avec l'un des cinq garants de ce grand débat, voulu par Emmanuel Macron pour tenter de sortir de la crise des gilets jaunes. Un débat qui est désormais terminé, reste à savoir, et ce n'est pas une mince affaire, quelles en seront les conclusions. Alors ce soir, on va voir comment se fait la synthèse, si les conditions dans lesquelles elle se déroule sont satisfaisantes, si l'indépendance de ceux qui s'en chargent est garantie. Ensuite, l'exécutif dira ce qu'il a retenu de cette séquence inédite de démocratie participative, entre guillemets, d'un nouveau genre, et comment il compte répondre aux attentes de ceux qui ont participé à cette consultation. Mais ça, c'est une autre histoire, et en attendant, l'opposition commence à s'impatienter. La restitution des contributions des Français est annoncée pour le 8 avril prochain. Il y aura la semaine prochaine un débat sans vote à l'Assemblée. Avec nous pour aborder tous ces sujets ce soir, le politologue Pascal Perrineau. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Professeur à Sciences Po et donc un des cinq garants de ce grand débat. Avec nous également Mathilde Himmer. Bonsoir.
Bonsoir.
Co-présidente, il faut parler bien près du micro, de Démocratie Ouverte, une organisation, on peut le dire comme ça, qui milite pour une autre démocratie rénovée.
Réenchanter notre démocratie, qui en a bien besoin aujourd'hui,
voilà.
Comme on le voit.
Et on attend évidemment vos appels à tous au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel qui nous vient de Lyon. C'est Yvon, il est en ligne. Bonsoir Yvon.
Bonsoir monsieur, bonsoir mesdames. Et puis bonsoir monsieur Perrineau. J'ai assisté à une de vos conférences à Auxerre.
Ah merci, très bien.
Vous vous souvenez.
Tout à fait.
Deux petites questions très rapidement. Pourquoi faire un grand débat national alors que le président de la République a dit qu'il n'allait pas changer de cap? Et deuxièmement, si vous me permettez, le gros problème des pouvoirs d'achat, ce sont les gilets jaunes, c'est le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, ce sont les salaires, c'est-à-dire le MEDEF. Pourquoi le MEDEF est totalement absent du grand débat depuis 4 mois?
Merci Yvon pour cette entrée en matière. Très bonne question d'ailleurs, Pascal Perrineau. Pourquoi un débat si l'exécutif nous a déjà dit qu'il ne changerait pas de cap?
Alors, ça n'a échappé à personne que le président de la République, qui disait encore au mois d'octobre et de novembre qu'il ne changerait pas de cap, n'utilise plus aujourd'hui le même type d'expression. C'est certainement dû au processus démocratique de prise de parole des Français dans les 2 mois qui viennent de s'écouler, et en particulier dans la période du grand débat qui a commencé le 15 janvier et s'est arrêté le 15 mars. Et même, on entend dans les allées du pouvoir le thème de l'acte 2 du quinquennat, ce qui veut bien dire qu'il n'y aurait non pas un acte 2 qui s'opposerait à l'acte 1. Mais par définition, dans l'acte 2, on ne dit pas la même chose que dans l'acte 1 au théâtre et en matière politique. La question évoquée du pouvoir d'achat est tout à fait essentielle. Parce que, en effet, au-delà des 4 thèmes qui avaient été fixés par le président de la République et le gouvernement pour organiser le grand débat national, il n'y avait pas directement la question du pouvoir d'achat. Il y avait la question de la fiscalité, ça n'est pas tout à fait la même chose. Et on a vu que dans ce grand débat national, les Français sont rentrés dans le processus se sont emparés de la question du pouvoir d'achat. La question du pouvoir d'achat du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tous les milieux sociaux, mais particulièrement dès qu'on quittait le cœur des grandes métropoles urbaines, est un thème qui est extrêmement présent. Avec ce paradoxe que note l'auditeur, c'est que, en revanche, le monde des grandes entreprises, en particulier, a été très peu interpellé.
On a l'impression qu'il n'y a que l'État comme interlocuteur.
Oui, que l'État et les politiques. Comme si, mais on est en France, on attend beaucoup de choses, peut-être trop, je ne sais pas, de l'État du monde politique. Et lorsqu'on interpellait les entreprises, c'était, vous voyez, les GAFA, les grandes entreprises mondiales, étrangères. Mais il y avait peu, en effet, d'interprétation des entreprises françaises, qu'elles soient moyennes ou grandes. En revanche, les thématiques des TPE, des très petites entreprises, étaient très présentes sur le terrain, parce que ces patrons de très petites entreprises, très souvent, dans la revendication, ils se retrouvent parfois, aux côtés des salariés et des gens qui sont en difficulté.
Mathilde Himmer, de Démocratie Ouverte. Vous avez compris, vous aussi, les interrogations d'Yvon?
Oui, je les comprends et en partie, je les partage. La première chose sur le changement de cap, c'est une des alertes qu'on a eues quand le gouvernement a lancé le grand débat. On avait 3 alertes. Le premier, c'était la transparence. On a été en partie rassurés, puis on a mis en place un observatoire pour vérifier que sur cette partie-là, en plus des garants pour compléter le dispositif, on allait y arriver. La deuxième chose, c'était quel débouché il y aurait. Avec une demande assez forte d'avoir un engagement politique fort sur un débouché politique à l'ensemble de ce dispositif. Aujourd'hui, on attend. Et comme on le voit, les Français aujourd'hui sont sceptiques et on peut les comprendre. Donc, faut voir ce qu'il en ressort. La deuxième chose sur pourquoi le pouvoir d'achat avec un focus sur l'État alors que c'est avant tout le salaire et les entreprises. Je pense que c'est en grande partie vrai, mais que pourtant il y a des initiatives qui ont été menées soit par des gilets jaunes, soit par d'autres acteurs, qui montrent que les Français montrent du doigt finalement aussi ces grands acteurs. Je pense notamment à un sondage BVA qui était sorti où on voyait la convergence entre des propositions venant des écologistes et des gilets jaunes, dont une qui était taxer davantage les grandes entreprises les plus polluantes pour permettre aux plus démunis de profiter et de faire cette transition écologique dont on a tous besoin.
En tout cas, comme le disait Pascal Perrineau, même si la question du pouvoir d'achat n'était pas écrite noir sur blanc comme un des quatre grands thèmes, les participants au grand débat s'en sont emparés. Mais d'ailleurs, fallait pas s'étonner, Pascal Perrineau. Enfin, depuis le début, on entendait ça sur les ronds-points.
Bien
c'est
sûr,
quand même,
bien sûr.
C'est quand même une évidence. Vincent nous appelle à son tour. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir.
D'où appelez-vous ?
De la région parisienne, Noisy-le-Grand.
D'accord. Et vous souhaitiez nous parler de la crédibilité du grand débat, c'est ça ?
Oui, sur le nombre de participants qui est annoncé, parce que j'ai participé au questionnaire et pour des raisons techniques, en fait, j'ai dû créer un deuxième compte. Donc ça fait que je compte pour deux participants alors que je suis tout seul. Et c'est juste une adresse mail qu'il faut donner. Un peu comme pour La République en Marche, en fait. Et donc, je sais pas trop, et quand j'entends les chiffres de participation avec des milliers de contributions, alors que quand on regardait sur le site, les comptes, c'était 200 000. Donc, je me demande combien il y a eu de participants vraiment. Quoi.
Alors, on va essayer d'éclaircir tout ça. Merci beaucoup, Vincent, pour cette question. Pascal Perrineau, vous qui êtes un des cinq garants, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui ont participé à ce grand débat ? Et d'abord, quand on parle de participation, de quoi parle-t-on précisément ? Parce qu'il y a eu plusieurs choses différentes.
Tout à fait. Pour être le plus clair possible et pour donner une estimation chiffrée à la fin de la période de 2 mois qui vient de s'écouler, il faut bien voir que le grand débat s'est développé sur 4 sites. Il y a eu ce dont parle votre auditeur, en effet le site du grand débat national. Il y a eu un deuxième site, ce sont les réunions d'initiatives locales, il y en a eu 10 000 en France. Il y a eu un troisième site, ce sont les cahiers citoyens et les cahiers de doléances, qui avaient d'ailleurs commencé un peu avant le 15 janvier.
Avec les maires ruraux.
Et il y en a eu 16 000. C'est-à-dire que dans le tiers, plus du tiers des communes françaises, il y a eu un cahier de doléances. Et puis il y a eu un quatrième site qui est plus modeste, ce sont les courriers, les courriels adressés directement par les gens qui ne voulaient pas se retrouver dans une réunion d'initiative locale, qui n'étaient pas à l'aise pour rentrer sur un site. Quand vous totalisez celles et ceux qui ont participé à tout cela, on arrive à quelque chose de l'ordre de 2 millions. De 2 millions de personnes, à peu près, comme ça. Hein, de 2 millions de personnes, sachant que sur le site, on a environ 500 000 personnes qui ont contribué. Il y a aujourd'hui 2 millions de contributions, mais comme chaque personne en déposait entre 3 et 4, il faut diminuer pour avoir vraiment une idée des contributeurs, avec en effet ce que dit votre auditeur. Il peut y avoir le même contributeur qui a adressé 2 contributions, ça c'est vrai, tout à fait. On n'est pas dans un monde de la perfection à cet égard. Hein. Bon, mais il y a 2 millions. Alors 2 millions, c'est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup par rapport à quoi ? Beaucoup par rapport à toutes les expériences de démocratie participative que l'on connaît depuis 10 ans. Vous savez, il y a une espèce de loi qui est que lorsqu'on a recours à la démocratie consultative, participative, délibérative, en général, quand on a touché 1% de la population concernée par l'équipement public dont on parle, par exemple l'établissement d'un aéroport, l'établissement d'un barrage, quand on touche 1%, on considère que c'est un succès. Là, on a touché 4%, plus de 4% de la population inscrite sur les listes électorales, puisqu'il y a 47 millions de Français qui sont inscrits sur les listes électorales. Donc, à cet égard, c'est un succès.
Mais, par rapport à la participation.
Voilà, à la participation de ce type de démocratie participative habituelle. Mais, ensuite, il faut bien voir qu'il ne faut pas dire les Français pensent que à partir de cela. Non, les contributeurs, les Français et les Françaises qui ont accepté de rentrer dans ce processus, pensent que, disent que. Parce que 47 millions de Français inscrits sur les listes électorales, mettons qu'il y ait 2 millions de personnes qui aient participé, c'est-à-dire qu'il y a 45 millions de Français qui sont restés en dehors.
Il y en a même qui ont refusé le débat.
Et il y en a même qui ont refusé.
Il y en a même,
alors là, il faudrait, si on veut tout à fait dans l'honnêteté et la transparence la plus absolue, il y a les Français qui sont allés sur d'autres sites parce qu'ils ne voulaient pas aller sur ce site-là.
Voilà. Mathilde Dimer, sur les chiffres que vient de nous donner Pascal Perrineau...
Sur les chiffres, il y a juste deux précisions sur la question que posait votre auditeur. La première, c'est il y a un dédoublonnage qui est fait par le site. Quand il y a un problème technique et que vous avez rentré votre adresse email, jamais votre adresse email n'est comptée deux fois quand on dit qu'il y a 500 000 participants. Ça, c'est une première chose qui est une évidence. Après, sur le chiffre de 2 millions, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Tout dépend à quoi on compare, en effet. Si on regarde la pétition de l'affaire du siècle, qui a fait en quelques jours à peine 2 millions, on peut dire que c'est très peu.
Mais c'est plus facile quand même de signer une pétition que de, que de participer à un grand débat, d'aller répondre à des tas de questions et, ou
bien
de participer
entendu,
à une
après,
réunion.
Faudrait rentrer dans le détail encore plus de qu'est-ce que c'est qu'une contribution. Et là, on a toute une palette différente de contributions quand on dit 2 millions de contributions. Il y a à la fois les comptes rendus des réunions locales, mais il y a aussi cliquer sur une question ou un formulaire qui peut être assez proche finalement d'un clic sur une pétition. Donc en fait, c'est très disparate, donc c'est compliqué de répondre. Ce qu'on sait, c'est que c'est la plus grosse consultation jamais réalisée. En revanche, c'est très peu de Français en réalité.
Et vous êtes d'accord tous les deux sur ce point.
Sur ce point, on est d'accord, mais je voudrais juste ajouter qu'au-delà des chiffres, c'est l'unicité du processus qui est important. On sait très bien que cette première étape, qui n'est qu'une première étape, elle n'a pas pour vocation d'être représentative des Français. Ce qui est extrêmement important et ce qui manque peut-être à ce grand débat aujourd'hui, c'est l'unicité d'un process qui permet derrière de se dire la phase numérique n'est pas représentative des Français. Comment moi, État, je mets en place une deuxième et une troisième étape qui permet d'avoir cette représentativité.
On va y venir. Sur l'organisation de ces réunions, de tout ça, Pascal Perrineau, vous les cinq garants, comment avez-vous travaillé? Vous êtes allé voir sur place comment ça se passait, comment les restitutions étaient faites, comment vous avez vérifié ce qui se passait?
D'abord, au début du processus, on est nommé le 17 janvier, dès le 18 janvier, on est sur le terrain pour observer ces différents lieux. On a des rencontres régulières avec la mission du Grand Débat qui gère le site. On va voir sur le terrain, dans différentes régions, on se répartit le travail entre nous, ces réunions d'initiatives locales. On regarde dans les mairies ces cahiers de doléances, on observe attentivement si tous les courriers, sans exception aucune, que l'on peut recevoir, que le président de la République reçoit, que le premier ministre reçoit, que des tas de gens. Moi j'en ai reçu. Vraiment, j'ai dû en recevoir environ presque une petite centaine. Sont bien détournés vers la mission du Grand Débat national.
Vous avez les moyens de vérifier ça?
Bien sûr, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'était, vous savez, au quotidien, on a travaillé tous les jours tout de même. Bon, et ensuite, nous avons regardé attentivement le processus de numérisation de ce qui n'était pas numérisé. Parce que pour que ça soit exploité, il faut que ça soit numérisé. Donc ce sont des centaines de milliers de pages. On en est aujourd'hui, je crois, environ 400 à 500 000 pages numérisées. Et ça va continuer. Parce que sans numérisation, on ne peut pas faire d'exploitation. Et puis ensuite, nous avons rencontré toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, sont intervenues dans le processus, et en particulier les entreprises qui sont chargées, il y en a deux catégories, les entreprises qui sont chargées d'analyser tout ce matériel littéralement gigantesque. Ce sont des millions et des millions de verbatim qui sont en train d'être analysés.
On peut dire un mot peut-être de ces entreprises qui sont chargées de ce
travail? Il y a quelque chose d'assez relativement plus classique, c'est le Opinionway, qui est un institut d'études d'opinion bien connu, associé à une société qui s'appelle QWAM, qui a l'habitude de l'analyse lexicologique, l'analyse des discours, des productions discursives, etc. Ces deux entreprises sont en charge d'analyser toutes les réponses aux questions ouvertes et aux questions fermées du site, ce que notre auditeur disait tout à l'heure. Il est allé sur le site et il a répondu certainement à des questions ouvertes et à des questions fermées. Ils sont en train d'exploiter ça. Pour tout le reste, c'est-à-dire pour les autres sites dont je parlais tout à l'heure, c'est un pool d'entreprises, Roland Berger, Bluenov et Cognito, qui va analyser et qui a commencé bien sûr déjà à faire le travail, mais ça rentre, j'allais dire, peu à peu. Je crois que lorsqu'on fera le rendu début avril, on aura traité à peu près 80% de l'ensemble des données, et vers le 20 avril, on sera presque à 100% des données, ce qui est une prouesse, je vais vous dire, technique.
On peut faire confiance à ces entreprises qui sont en train de faire ce travail ?
Alors, nous les avons rencontrés, nous avons travaillé sur leur méthode, leur méthodologie quantitative, qualitative. On est allé assez loin, parce que bien sûr, les cinq garants, ils ne savent pas tout. On n'est pas spécialiste du traitement de ce qu'on appelle les mégadonnées, les big data, etc. Nous ne sommes pas des spécialistes. Donc, on les a fait rencontrer, en particulier des laboratoires de recherche publique très pointus sur le sujet, afin qu'ils puissent interroger les méthodes mises en œuvre. Et oui, nous avons été rassurés.
Mathilde Himmer, de Démocratie Ouverte. Sur ces entreprises.
Oui, je pense que c'est les mieux placées aujourd'hui pour le faire. Après, elles ne sont pas parfaites et c'est un écosystème qui est en pleine expansion. C'est aussi quelque chose d'inédit. Donc, on sait que l'intelligence artificielle, par exemple, d'un acteur comme Bluenove, ne permet pas d'avoir non plus toute la diversité exacte de ce qu'il y aurait eu mot par mot dans le débat. Néanmoins, ça donnera les grandes masses. Mais j'ai presque envie de dire, pour moi, le débat n'est pas là. Et se focusser sur le fait que l'ensemble des contributions soient numérisées, finalement, est-ce que c'est là l'essentiel alors qu'on sait que ce n'est pas représentatif des Français et que ce n'est pas à partir de cette base-là qu'il faudrait faire.
C'est peut-être important pour ceux qui y ont participé et qui veulent au moins que ce soit restitué.
Tout à fait.
C'est même décisif. Hein, c'est une question de respect citoyen. Hein. Et là, les garants étaient extrêmement attentifs à cette affaire qu'on appelle, nous, l'inclusion et l'exhaustivité.
C'est extrêmement important, bien sûr, et il faut respecter ceux qui ont décidé de participer. Néanmoins, il y a des choix qui ont été faits, notamment sur le choix de la plateforme, qui auraient pu faciliter, finalement, s'ils avaient été différents, le traitement de ces données. Mais je pense notamment, on a parlé d'acteurs qui utilisaient d'autres plateformes que celle du Grand Débat. Il y a une initiative qu'on a trouvée assez chouette qui s'appelle l'initiative du vraidébat.fr. Pas chouette de par son nom, mais parce qu'elle a utilisé exactement la même plateforme technique que celle du Grand Débat, qui est Cap Collectif, mais en l'utilisant différemment et en permettant finalement aux utilisateurs de voter pour les recommandations qu'ils préféraient. Du coup, il y a un système où on voit là se dégager des consensus et des dissensus. Ils vont eux aussi sortir une synthèse prenant en compte l'ensemble des contributeurs. Ils sont évidemment moins nombreux, mais c'est intéressant de voir comment les démarches et les choix méthodologiques ont un impact sur le type de débouché et la quantité de travail que ça demande derrière.
Mais vous avez voté quand ça n'est pas un échantillon représentatif. Voilà. Hein,
garder toutes ces réserves en tête.
Et par exemple, nous disons à la société qui analyse les réponses aux questions fermées, attention au pourcentage que vous allez sortir. Parce qu'en effet, comme vous venez de le dire, cet échantillon n'est pas représentatif.
Allez, un dernier mot et puis on part au standard.
Je pense qu'on est totalement d'accord sur le fait que justement, cette phase n'étant pas représentative, attention à ne pas s'arrêter là pour prendre des décisions.
Voilà, on part dans le Pas-de-Calais, retrouver Marc qui patiente depuis un petit moment au standard. Bonsoir Marc.
Oui, bonsoir. Tout ça me paraît très technique. J'en reviens à la démocratie, à proprement parler. C'est un peu mon fonds de commerce, d'une certaine manière. Et je dirais volontiers que ce qui me préoccupe, lorsque j'ai organisé deux débats intitulés « Semer la République de demain », c'est quand sera-t-il après le débat et qu'est-ce qu'il en restera ? Et ce qui m'a interrogé tout de suite, c'est la règle du jeu institutionnel et la démocratie locale. Et donc on s'est appesanti essentiellement là-dessus, sur les collèges locaux, la réforme du CESE et un certain nombre de règles du jeu qui nous semblent essentielles pour que ce débat ne soit pas un grand débat on ne sait pas encore ce qui va accoucher de cela, mais de dire qu'il y aura un débat citoyen qui sera pérenne grâce aux institutions qui vont être toilettées, je pense. Et le CESE fait partie, à mon avis, d'un élément absolument essentiel dans cette stratégie. Voilà.
Merci Marc. Visiblement, vous avez déjà bien avancé dans votre réflexion sur toutes ces questions. Qui souhaite réagir, Mathilde Himmer, à ce qu'on vient d'entendre?
C'est toute la question. Moi, je suis 100% d'accord avec la question de l'auditeur. La grande question, c'est quel va être le débouché de tout ça? Si c'est une grande consultation dont il débouche une toute petite souris, finalement, à quoi bon? Par contre, s'il y a des vraies réponses au questionnement à la fois des Français et à la crise des Gilets jaunes, pourquoi pas? Néanmoins, ça va être aujourd'hui extrêmement dur pour le gouvernement de répondre à toutes les attentes qui ont été créées par le grand débat. Donc c'est une vraie question de quel va être le curseur et quelle va être la réaction derrière à la fois des Gilets jaunes et à la fois des Français en général. D'où le fait que je suis 100% d'accord avec l'auditeur sur le fait qu'il y a des choix institutionnels à changer. Il y a une réforme constitutionnelle en cours, Mais ça ne sera pas suffisant. Il y a un enjeu aussi de court terme pour un certain nombre de Français. Donc il va falloir faire des choix assez drastiques et peut-être mettre en place une méthodologie qui puisse permettre de traiter le temps long dans un second temps. Et ça, on a des outils qui sont performants et qui ont fait leur preuve à l'international.
Il faut les mettre en place.
En matière de démocratie, les institutions, c'est important. Mais avant l'idée même du grand débat, il y avait une réforme constitutionnelle, une réforme des institutions, par la loi organique aussi, par la loi qui était à l'œuvre. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Simplement, ce qui s'est passé pendant 2 mois donne un ton peut-être nouveau à certaines mesures qui vont être prises dans le cadre de la réforme constitutionnelle, de la réforme par la loi organique ou de la réforme tout simplement par la loi le règlement. Ce qu'évoque l'auditeur, c'est en effet, il insiste beaucoup sur des aspects institutionnels, le rôle du CESE, éventuellement est-ce que le CESE pourrait accueillir ou non une démocratie de type consultative en son sein à côté de la démocratie représentative. Ce sont
des
de vraies questions
existent,
voilà, dont on pourra délibérer, mais à la fin des fins. C'est la démocratie participative qui a pris la parole pendant 2 mois. La seule qui a la légitimité de prendre des décisions, c'est la démocratie représentative. C'est la démocratie des grands nombres. On parlait de nombres. On notait à 2 millions par rapport à 47 millions d'inscrits. Eh oui, vous savez que lors du premier tour de la présidentielle, c'est 37 millions d'électeurs qui ont voté. Hein? Donc maintenant, le grand moment, c'est le retour de la démocratie représentative dans le processus. Et on va voir en particulier, le premier moment fort, ça va être le 9 et le 10 février, la manière dont
avril,
le Parlement...
Avril, pardon,
vous voyez, je suis resté en arrière. En effet, le 9 et le 10 avril, l'Assemblée nationale et le Sénat vont s'emparer des premiers éléments de restitution du grand débat national qui auront lieu la veille.
Qui auront été donnés par qui ? Par Édouard Philippe, c'est ça ?
Qui seront donnés par les prestataires auxquels nous faisons allusion. C'est-à-dire ceux qui ont véritablement traité ces données en présence, j'espère, c'est ce que nous avons recommandé, le Collège des Garants, de citoyens.
Vous les présenterez ensemble avec
l'exécutif ?
Nous serons
là, bien
sûr,
nous serons là, mais c'est pas nous qui sommes, contrairement à ce qu'a dit l'ex porte-parole du gouvernement, c'est pas les garants qui feront l'interprétation des données. Ce n'est pas du tout dans notre fonction d'observateur.
Mathilde Immer.
La sensation qu'on a, c'est qu'on sent bien qu'à la fois le grand débat, que la crise des Gilets jaunes, de la même manière, la pétition, l'affaire du siècle, où c'est quand même 2 millions de Français qui sont d'accord pour attaquer leur propriété en justice. Qu'on en vient quand même à des niveaux assez importants. On sent bien qu'il y a un problème démocratique et que cette séquence politique qui vient de se produire et qui est peut-être en train de se clôturer, il y a un vrai besoin de mise à jour du logiciel démocratique qui va plus loin que ce qui était aujourd'hui dans la réforme constitutionnelle prévue. On entend beaucoup parler du RIC, qu'il soit délibératif, qu'il ne le soit pas. Quelle place sera donnée au RIC, qui est aujourd'hui massivement soutenu par l'ensemble des citoyens dans le cadre de la réforme constitutionnelle. Et il y a aussi, comment est-ce qu'on traite la démocratie, le court terme et le long terme. Sur la question démocratique, il y a une réforme constitutionnelle en cours qu'il va falloir porter un petit peu plus loin que l'ambition initiale. Il y a le court terme, où ça va être des réponses politiques, notamment sur les questions de pouvoir d'achat et de fiscalité a priori. En tout cas, c'est ce qu'attendent un certain nombre de Français. Et puis, il y a la réponse de long terme, où là, il faut à nouveau un processus citoyen. Et une des propositions que nous faisons, et qu'un certain nombre de personnes soutiennent, à la fois parmi les Gilets jaunes, comme Priscilla Udowski, à la fois dans les écolos, comme Cyril Dion, à la fois dans les élus locaux, et aussi, évidemment, des personnes du monde démocratique, comme Luc Blondiot, c'est de mettre en place une assemblée de 100 citoyens tirés au sort, qui serait chargée, en prenant le temps, c'est-à-dire plusieurs mois, comme ça s'est fait dans des pays à l'international, de faire des propositions pour mettre à jour notre logiciel démocratique et peut-être mettre à jour notre fiscalité pour qu'on n'ait plus demain des crises qui se répètent et dans la rue.
Alors vous avez raison d'évoquer le long terme, mais on va en revenir peut-être à des choses plus terre à terre avec Blanche qui nous appelle depuis Lyon. Bonsoir Blanche.
Bonsoir.
On vous écoute, bienvenue.
Bonjour. Vous évoquez des prestataires, des gens qui nous aurions toute confiance pour analyser les pages numérisées, etc. Moi, je vais poser des questions strictement bébêtes et terre-à-terre financières. Quels ont été les appels d'offres et le coût de ces appels d'offres pour recruter ces prestataires dans des délais aussi courts ? On a besoin de chiffres pour savoir comment notre argent est dépensé actuellement. pour cette première phase d'étude et pour la phase suivante. Donc tout ça est bien cher, nous le savons, nous voulons des chiffres, c'est inacceptable de parler de démocratie et d'argent public et de services publics sans savoir combien tout cela coûte.
Eh bien, on va poser la question, Blanche, oui?
Oui, combien ça coûte? Et deuxièmement, des fois, ça coûte bien moins cher d'écouter les gens qui travaillent dans l'appareil d'État pour savoir que la fusion des régions coûte très cher. Et l'ISVCE n'a rien découvert, l'émission qu'on a vue.
On va rester peut-être sur le grand débat, Blanche, si vous le voulez bien.
C'est le grand débat hein, aussi, l'argent. Je veux savoir combien tout ça coûte.
Eh ben, merci Blanche pour cette question. Et est-ce qu'on peut y répondre d'abord pour commencer, Monsieur Le Garant.
Au stade où on en est, il faut attendre la fin du processus pour avoir une évaluation précise et la mission du grand débat national donnera un chiffre de ce que ça a coûté. Mais il faut savoir tout de même que ce processus du grand débat national, 70% des Français interrogés dans des sondages représentatifs disent que c'est une bonne chose. Et la démocratie, bien sûr, a un coût. Bien sûr.
Et pour l'instant, elle ne coûte pas autant d'argent qu'on peut l'imaginer aux finances publiques, la démocratie.
Oui, bien sûr, ce n'est pas la démocratie qui coûte le plus cher aux finances publiques. Mais sur la question que pose votre auditrice, qui est importante, c'est-à-dire dans des délais courts, comment s'y est-on pris ? Dans des délais courts, en effet, on a eu recours, la mission du Grand Débat National a eu recours à des entreprises qui étaient déjà dans les marchés d'État. Il n'y a pas de capacité dans un temps aussi court à ouvrir un nouveau marché. Donc, on a fait avec des entreprises, et ça tourne d'une entreprise à l'autre, qui
travaillent... Des entreprises qui auraient pu travailler, par exemple, pour le...
Auraient pu travailler pour tel ou tel ministère...
Oui, ou pour les gens qui organisent normalement les grands débats...
Mais bien sûr, mais pour rassurer, je ne sais pas s'il s'agit de rassurer, mais une des sociétés, je parlais tout à l'heure, en particulier de Cognito, qui est à la manœuvre pour interpréter les données qui sont hors site Grand Débat National, les millions de données, c'est une société qui a travaillé pendant les vacances de Noël, par exemple, pour l'Association des maires ruraux de France, qui avait pris l'initiative, les premiers, de faire dans leur commune, de tenir des cahiers de doléances, et c'est eux qui ont interprété les cahiers de doléances. Et il faut savoir qu'il y a certaines sociétés qui travaillent pour le site. Tout à l'heure, on mentionnait Cap Collectif, qui travaille pour le site de la mission du Grand Débat National, sous autorité donc administrative et étatique, qui travaille pour les Gilets jaunes. Vous voyez, donc, ça, c'est tout de même un signe, ça n'est pas suffisant, mais c'est un signe, là, d'indépendance.
Mathilde Dumaire.
Ça n'est pas suffisant, et une des choses et une des victoires qu'on a eues dans le cadre du Grand Débat, quand, au début on parlait de transparence, au tout début du Grand Débat, on n'avait pas d'assurance que les données produites par l'ensemble du Grand Débat seraient ouvertes. Une des victoires, à la fois, je pense, des garants et à la fois de l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés, parce qu'il y a aussi des acteurs comme Côte d'Or France ou des acteurs comme Démocratie Ouverte qui sont montés au créneau, entre guillemets, c'est d'avoir ces données ouvertes. Donc si la synthèse qui en sort paraît, je vais le dire, cache complètement déconnante par rapport à la réalité, il est possible... Et il sera possible pour des chercheurs et pour d'autres acteurs de faire une contre-synthèse à l'avenir. Donc il y a un risque pour le gouvernement de jouer sur ce jeu-là.
Gérard, vous êtes dans le Val-d'Oise. Bonsoir Gérard.
Oui, bonsoir. Je suis un petit peu étonné par les termes de votre débat parce que j'ai lu une étude qui a été faite par un organisme de sondage de sociologues qui sont dépassés dans les grands débats et qui ont constaté que en gros il y avait zéro gilet jaune dans les grands débats pour simplifier un peu. Donc la question qui se pose, c'est que si le grand débat a été créé pour répondre à la question et aux questions qui ont été posées par le mouvement des gilets jaunes, vu qu'il n'y a aucun gilet jaune dans le grand débat quasiment, ça sert à pas grand chose, à part que les gens qui vont prendre des décisions, qui vont donner des avis, ça va pas résoudre le problème, en tout cas, de tous les samedis et des manifestations qui vont continuer, puisque ces gens-là ne sont pas, leur point de vue n'est pas pris en compte.
Merci Gérard.
À part ça que c'est pas intéressant, mais simplement, je suis très étonné que personne n'en parle.
Merci Gérard pour cette question.
Alors Pascal, ça n'est pas exact.
Il y en a pas du tout de gilets jaunes ou il y en a un peu quand
L'immense majorité des gilets jaunes, d'abord, avait son propre site, Le Vrai Débat, qui est analysé, va être analysé, donc on saura ce que cette population qui s'est retrouvée dans son site pense, on va le savoir dans les jours qui viennent, tout ça sera complètement transparent, et on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de gilets jaunes dans les réunions d'initiative locale. Par exemple, j'étais dans une réunion, ça devait être à la mi-février dans la ville de Beauvais, 40% de la salle arborait un gilet jaune. Et il y a bien eu un rendu compte de cette réunions d'initiatives locales. J'étais à Grasse, j'étais à Cagnes. Il y avait des gilets jaunes. Les gilets jaunes ont fait parvenir très souvent leurs cahiers de doléances. Et ces cahiers de doléances sont en ce moment en train d'être analysés. Alors je ne dirais jamais que c'est la majorité de la population des gilets jaunes qui s'est retrouvée dans le site du Grand Débat National. Mais ils étaient là aussi. Et puis d'autre part, si vous voulez, ce grand débat, il n'est pas fait uniquement pour la population des Gilets jaunes. Il est fait pour savoir si les thèmes qui ont été évoqués par ce mouvement social des Gilets jaunes rencontrent un écho, comment ils sont perçus, développés par une autre population, qui est une population qui dépasse les Gilets jaunes. Parce que si vous vous intéressez aux seuls Gilets jaunes, vous avez une idée, par exemple, aujourd'hui, de ce que peut peser, par exemple, électoralement les Gilets jaunes, puisqu'on mesure leur impact dans les prochaines élections européennes. Aujourd'hui, c'est entre 2 et 3%. Donc c'est très intéressant de savoir ce que pensent 2 à 3% de la population. Mais c'est intéressant aussi de dépasser ces isola et le grand débat, mais on le disait au début, le grand débat a dépassé partiellement cet isola, mais ça reste, oui, ça reste environ 2 millions de Français qui ne sont pas représentatifs, on pourra le répéter des heures et des heures, qui ne sont pas représentatifs de la diversité française et dans les prochaines élections, qui décidera de l'avenir du pays, c'est tout de même, ce sont les millions et millions d'électeurs qui ont l'habitude de se déplacer aux urnes.
Alors moi, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de ce qui va se passer ensuite. Et puis d'abord, peut-être une question sur l'attitude de l'exécutif, parce qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron, il a pris goût au grand débat, il fait durer le plaisir, il est encore dans des réunions qui sont présentées comme du grand débat. C'était pas fini depuis le 15 mars, Pascal Perrineau ?
Si, c'est fini depuis le 15 mars. Ce ne sont pas des réunions de grand débat. Ce sont des réunions de communication présidentielle et gouvernementale où d'ailleurs il s'adresse, vous l'avez remarqué, à des élus. Par exemple, récemment, les élus des Hauts-de-France. Les réunions du grand débat national, ça n'est pas ça. Il n'y avait pas d'élus. Et quand il y avait un élu, très souvent, il disait, voilà, c'était des maires, la plupart du temps, environ 50 à 60% des réunions du Grand Débat, c'était des maires qui les accueillaient. Il disait bonjour à la population et ensuite, très souvent, il s'effaçait pour laisser place à qui ? Aux citoyens. Donc,
l'opposition dit le pouvoir en profite et se lance dans une opération de communication et même de campagne électorale pour les européennes.
Le Collège des Garants a fait les remarques qu'il estimait devoir faire sur la durabilité qu'il a considérée comme excessive de cette communication présidentielle et gouvernementale, mais ça ne s'insère pas dans le processus de ce que l'on appelle le grand débat national.
Mathilde Dimer.
C'est là où, en effet, si on regarde la méthodologie de près, on a l'impression que tout va bien, mais en fait, il y a un flou. Et du coup, on peut tout à fait entendre les critiques qui sont faites par un certain nombre de Français, en premier lieu les Gilets jaunes, que c'est une instrumentalisation et un outil de com. Même si, factuellement, quand on connaît le détail, c'est pas forcément vrai. Néanmoins, ce flou, qui est un flou de communication, il est volontaire et il est préjudiciable à l'ensemble du dispositif du grand débat, on le regrette. Sur la question de la présence des Gilets jaunes, je pense qu'elle est très importante, cette question, parce que il y a les Gilets jaunes et puis il y a combien de Français soutiennent ce mouvement. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'au tout début, on avait un taux qui était très très haut, mais qui reste haut, malgré les violences, malgré la temporalité de ce mouvement. Et c'est ça qui est à prendre dans le cadre du grand débat, et c'est là que la question de l'internaute était vraiment intéressante. S'ils ne sont pas là, finalement, à quoi bon ce grand débat? On en revient vraiment à la question qui pour moi est centrale, de se dire, est-ce que ce grand débat est représentatif? Et sinon, comment l'utiliser pour avoir des débouchés qui ont un sens politiquement derrière?
Autre question pour vous, Pascal Perrineau, sur la suite des événements. Est-ce qu'on peut imaginer une issue autre que politique? Est-ce qu'on peut imaginer une issue autre qu'un retour aux urnes d'une manière ou d'une autre? Puisque c'est quand même souvent comme ça que ça se termine.
Il y aura d'abord une réponse. Je suis incapable d'être Madame Soleil, en l'occurrence. Mais j'imagine qu'il y aura...
Non, mais pour le politologue avisé que vous êtes.
Alors reprenons ma peau de politologue quelques instants. Il y aura certainement une réponse par la loi. Le Parlement va certainement réagir. Attention, les assemblées territoriales et toutes les assemblées territoriales sont aussi interpellées. Une réponse par le règlement, le gouvernement va certainement prendre des initiatives. Mais il y aura certainement, si vous voulez, trois types de réponses. Des réponses relativement immédiates, on verra, sur le terrain politique, institutionnel, on en parlait, sur le terrain social et économique peut-être. Des réponses deuxième type de réponses, qui seront des réponses rejetées à plus tard pour définir plutôt un projet de l'acte 2 du quinquennat et éventuellement de là. Et puis aussi, je suis sûr, des propositions sur lesquelles le pouvoir, tel ou tel parti, dira non. Hein ? Et les Français s'y attendent. Ils ne s'attendent pas après une telle éclosion qu'on dise réponse. Bien sûr, la réponse sera positive à tous les enfants. Les citoyens ne sont pas des enfants.
Le mot de la fin pour vous, Mathilde Himmer.
Pareil, j'ai pas une boule de cristal. Ce qui me semble souhaitable, c'est qu'il y ait deux temps et deux champs. Un temps qui traite l'urgence, où il y a une crise sociale et environnementale aujourd'hui. Il va falloir une réponse à court terme, à minima sur les questions de pouvoir d'achat et de fiscalité, si on veut une réponse politique à la crise qui est née quand même de ça. Et puis il y a une réponse de long terme, peut-être plus sur les questions démocratiques, et qui pourrait, devrait passer après ce processus inédit, bien que largement critiquable du grand débat, par un processus de démocratie encore plus abouti.
Et ça, on en reparlera forcément à l'avenir. Un grand merci à Mathilde Himmer de Démocratie Ouverte d'être venue ce soir. Merci à vous, Pascal Perrineau. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Maud Butler qui a lu vos mails, au standardiste de l'émission et à la technique ce soir, Tristan Gratalon, Fabrice Desmas, Loïc Frapsos.